et après la dissolution des ligues fascistes, je conservais de fidèles adversaires à gauche et je n'avais désormais que des ennemis à droite. Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouveau Canu Info. Nous sommes le jeudi 17 mars 2016 et ce soir, il y a plein de choses, on ne va pas vous parler. Hein, il me semble que Laurent, il y a plein de choses qu'on a laissées de côté ce soir.
Oui, notamment par exemple le micmac politique en Brésil. On l'a pas mis dans nos choix, les tentatives de compromis qui ressemblent plus à de la compromission qu'à autre chose avec la Turquie au sujet des migrants. On n'en a pas parlé. Les cours de la bourse, on s'en fout. Le cardinal Barbarin et ses amis prêtres prédophiles ne nous intéressent pas aujourd'hui. Le prélèvement des impôts à la source en 2018, on le laisse aux autres médias. Le retour de la pollution aux particules et la non-action des pouvoirs publics, on en parlera très peu, et les Palestiniens qui sont bien évidemment, malheureusement, toujours sous le joug de l'occupation israélienne, ne feront pas partie cette semaine de notre Canu Info, mais il y aura plein d'autres choses.
Ouais, on vous parlera pas non plus du retour du fils de la vengeance, c'est-à-dire de la publicité sur France TV, on aurait pu aussi vous parler de Donald Trump, mais c'est pas de ça dont on va vous parler, on va revenir très très rapidement sur la manif et les mobilisations du jour. On parlera des barbares, c'est-à-dire des États qui assassinent, qui pratiquent la peine de mort. On parlera des Kurdes. Nous parlerons d'un artiste de rue Blue en Italie qui a effacé ses œuvres. Nous parlerons de la belle blague des socialistes du jour. Commencez déjà à rire parce qu'on va rire très très fort. On va parler des paradis fiscaux et des grandes banques françaises. On parlera de 20 minutes d'un de ses articles. On parlera de l'État sécuritaire. On parlera des corégies d'Orange. Et puis, il y aura peut-être aussi de l'environnement et des brèves radioactives. Il y aura forcément.
Oui, pas peut-être.
Bien obligatoire.
Alors, nous allons ouvrir juste avec le petit bilan de la journée. Alors, si on suit les chiffres de l'UNEF, donc le syndicat étudiant, il y aurait eu 150 000 personnes en France dans les rues pour dire non au projet de loi de régression sociale sur le travail, la loi El Khomri. Dans les faits, pas mal de mobilisations réelles, en tout cas, même s'il y a toujours une exagération et l'inverse de la part de l'État. Donc voilà, pas mal de mobilisations, 115 lycées officiellement bloqués d'après l'éducation nationale, ce qui est finalement à la fois très peu, hein, il y a 2500 lycées publics en France, mais déjà pas mal, même si c'est pareil, les syndicats lycéens disent un petit peu plus, peut-être jusqu'à 200 établissements bloqués ou en tout cas perturbés, quelques universités fermées de manière autoritaire pour certaines, bizarrement, donc notamment à Paris, la Sorbonne, Tolbiac, Saint-Denis, Lyon 2 à Lyon, hein, qui a été fermé Manu Militari, on va dire, le campus Victoire à Bordeaux. À Lyon, on dira qu'il y avait quand même 6 000, 6 500 personnes. Un peu comme d'habitude, une fois que la manif est terminée, certains et certaines veulent continuer alors qu'il n'y a pas d'autorisation. Donc forcément, les forces de l'ordre n'aiment pas ça. La répression se met en place. Il y aurait eu peut-être, mais c'est pas sûr encore, 2 arrestations à Lyon. Voilà, quelques échauffourées un peu partout en France, là où effectivement il y a ce que les médias dominants appellent des débordements, ce qu'on appellera des initiatives provocatrices, hein, parce que quand on fait une manif, un endroit où c'est pas déposé, on sait très bien qu'on va forcément se battre ou en découdre avec les forces de l'ordre, hein, c'est souvent l'objectif d'ailleurs, ce qui ne justifie d'ailleurs aucune arrestation, on le rappelle. Donc voilà, prochain rendez-vous pour les lycéens et les étudiants, a priori la semaine prochaine, et pour les salariés, c'est le 31 mars où il y a la grosse mobilisation.
Alors, tout de suite, nous allons commencer avec les barbares, ces États qui assassinent, qui pratiquent la peine de mort, comme je le disais en introduction. Alors, on va parler de l'Iran, hein, évidemment, l'Iran. Le grand pays de la peine de mort, de l'exécution publique, d'exécution des mineurs. Et on a un nouveau chiffre pour 2015. 966 personnes ont été exécutées en Iran.
C'est pas loin, ils essayent de rattraper la Chine. Moi, j'ai encore un peu de marge.
C'est les premiers, on dit que c'est mieux. Alors, la Chine, le problème, c'est qu'on a très peu d'infos. Ouais. L'Iran aussi. 966, on dit que c'est l'Iran, hein, quand même, hein, qui retient, qui a le record, hein, des exécutions. Un triste record. L'Iran s'est a même dépassé son propre record. C'est-à-dire que c'est, depuis ces 20 dernières années, c'est le chiffre le plus important au niveau des exécutions. Il y a évidemment, comme je vous le disais, un certain nombre de mineurs qui ont subi ces exécutions. On parle de 160 mineurs qui seraient actuellement dans les couloirs de la mort en Iran. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est le rapporteur spécial de l'ONU, hein, qui a rapporté ces chiffres. Bon, il rapporte aussi qu'il y a un certain nombre de journalistes et de blogueurs, hein, qui sont emprisonnés. Des activistes, voilà, ça va pas mieux en Iran, quoi qu'on en dise. Et de l'ouverture économique que certains attendaient et qui sont très heureux. Alors, on peut continuer aussi avec l'Arabie Saoudite. Nous en sommes donc à 73, en ce 17 mars 2016. L'Arabie Saoudite continue donc à assassiner semaine après semaine. Alors, moi, je me suis demandé un petit peu ce que M. Valls en pensait, puisqu'il a dû répondre aux critiques de cette fameuse Légion d'honneur remise au prince d'Arabie Saoudite, Mohamed Ben Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud, excusez-moi pour le petit écorchage, le petit accro. Alors, il a été au micro de RMC, il a déclaré « Il faut arrêter les hypocrisies ». Oula, déjà ça sent mauvais. « Nous avons une relation stratégique avec l'Arabie Saoudite, il faut l'assumer. Est-ce que pour autant nous partageons la nature du régime, son action ? Non, bien évidemment. » Mais, nous dit-il, c'est une tradition que d'honorer des dirigeants. Sinon, nous ne discutons avec personne. Nous n'avons aucune relation. Alors nous, entre remettre une Légion d'honneur et papoter, si vous voulez, il y a quand même un écart. Je pense.
Et puis la Légion d'honneur, c'est pour des gens qui ont servi la France. C'est ça dans l'idée.
Quelqu'un qui amène quelque chose. Ah bah ils amènent le pognon, excuse-moi, hein, quand même.
Oui, voilà, tout à fait. Ils servent économiquement les intérêts des sociétés soi-disant françaises.
Moi, le bilan que je tire de tout ça, c'est qu'ils ont pas grand chose à penser, monsieur Valls, de toutes ces exécutions. En tout cas,
a priori, ils ont pas mal d'amis qui assassinent comme ça et ça les gêne pas trop.
Alors, il y en a un qui, a priori, que ça a gêné, c'est Alain Nicolas, anthropologue, préhistorien, ancien conservateur en chef des musées de France, qui avait reçu en 2002, il a été fait, excusez-moi, chevalier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite. C'était en 2002, c'était Jacques Chirac qui lui avait remis la babiole. Ça l'a un peu énervé. Alors, il a fait un petit courrier, hein, très très bref, daté du 7 mars. J'ai appris que vous avez remis la Légion d'honneur au prince héritier et ministre de l'Intérieur d'Arabie Saoudite. Ayant moi-même été décoré en 2002 par le président Chirac de cette même Légion d'honneur, je considère votre geste de président de la République française comme une insulte personnelle et collective insupportable. C'est pourquoi j'ai décidé de mon retrait de cet ordre où je ne souhaite pas figurer aux côtés de telles personnalités qui ne partagent pas les valeurs humaines et démocratiques de la France. Vous trouverez ci-joint la médaille qui m'a été remise à l'Élysée le 22 octobre 2002. Il a donc rendu la babiole, ça l'a un petit peu agacé. dire. Alors, on vous le disait la semaine dernière, hein, l'Arabie Saoudite et la France ont de grandes relations. Il faut savoir qu'ailleurs, il se passe des choses aux Pays-Bas. Les députés ont approuvé, voté mardi, une motion d'un député social-démocrate qui demande au gouvernement, à leur gouvernement et à l'Union européenne de fixer des conditions très strictes pour la livraison d'armes à l'Arabie Saoudite. Alors c'est un texte qui n'est, excusez-moi, absolument pas contraignant, donc bon, c'est plutôt symbolique. Malgré tout, c'est un texte important puisque ça participe à une remise en question des relations avec l'Arabie Saoudite et en particulier sur les livraisons d'armes. Alors la France est bien engagée hein, puisqu'il y a ce fameux contrat d'armement DONAS. Je vous rappelle un petit peu ce que c'est que ce contrat d'armement. C'est un contrat tripartite. La France livre les armes, l'Arabie Saoudite les paye et le Liban les utilise.
Oui, alors ça a été un peu chamboulé ces derniers temps.
Oui, parce que je vous rappelle que entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, il y a un petit peu quand même une petite guéguerre et que au Liban on trouve le Hezbollah proche de l'Iran et que le Liban est un pays compliqué au niveau politique et donc on en est arrivé au résultat que le 19 février dernier, l'Arabie Saoudite avait suspendu l'opération en cours et puis évidemment les armuriers, enfin, en tout cas l'industrie d'armement française est tout à fait heureuse puisque l'Arabie Saoudite hein, va bien honorer ce fameux contrat DONAS. Alors c'est de l'armement, de l'équipement militaire, chose assez classique hein, finalement. Le problème, c'est qu'il y a ce traité sur le commerce des armes, le TCA, c'est donc l'acronyme qu'on trouve souvent, qui est entré en vigueur en décembre 2014. Et il faut savoir que l'Arabie Saoudite est quand même accusée de crimes de guerre hein, pour ses frappes au Yémen. Il y a un certain nombre d'organisations internationales, il y a l'ONU, donc c'est quand même assez sérieux au niveau de ces accusations et de ces allégations. Donc c'est une violation du droit international. La France s'engage donc aujourd'hui, alors qu'elle a signé hein, ce traité sur le commerce des armes, à livrer des armes, certes au Liban, mais à travers le financement de l'Arabie Saoudite. Et puis la France continue évidemment à arroser l'Arabie Saoudite en équipement militaire. Donc c'est un petit peu quand même un problème pour la France. Qui n'a pas l'air très très embêté, en tout cas Monsieur Valls n'a pas l'air d'être très très embêté sur la question. Mais voilà, définitivement, ce partenariat, ces échanges avec l'Arabie Saoudite, de tous les côtés, on peut les critiquer, que ce soit au niveau économique, au niveau humain. Voilà, là, franchement, la France s'engage quand même à côté d'une belle merde.
Voilà, ben on va rester dans des choses pas très loin où l'Arabie Saoudite intervient, puisqu'on va parler un petit peu de la Syrie, puisque les Kurdes syriens ont proclamé aujourd'hui une région fédérale officielle, donc dans le nord de la Syrie. Donc, alors, ça n'a pas plu à tout le monde. On peut dire ça comme ça. L'opposition et le régime de Damas ont rejeté donc unanimement la proclamation des Kurdes syriens. Alors l'opposition, c'est tous les autres, sauf les Kurdes, bien évidemment. Donc le régime totalitaire de Damas a mis en garde contre, je cite, « toute atteinte à l'unité du territoire et du peuple syrien », tandis que le reste de l'opposition, enfin l'opposition mettait en garde contre une aventure sans fondement légal. Voilà, ils sont finalement tous d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une seule Syrie. Ils veulent tous la Syrie en entier, le gâteau en entier, et surtout pas le partager avec les Kurdes. Ça, c'est ce qui ressort de tout ça. Et pourtant, les Kurdes sont des acteurs incontournables de la guerre civile. Ils occupent désormais 14% du pays, les trois quarts de la frontière avec la Turquie. Et bizarrement, ils sont pas associés au pourparlers de Genève. Tout ça parce que la Turquie ne veut pas, considère les Kurdes comme les ennemis de la Turquie, notamment le parti PYD, qu'il considère comme terroriste, et par la simple volonté de la Turquie qui impose énormément de choses à tout le monde, les Kurdes n'y ont pas droit. Et pourtant, les Kurdes se battent jour le jour contre l'État islamique, contre le régime totalitaire de Damas, et on les laisse tomber. C'est quand même honteux ce qui est en train de se passer, ou ce qui va se passer à Genève. C'est lundi prochain qu'il y a de nouveau des pourparlers de paix. Voilà, donc officiellement, Les Kurdes ont mis en place un système fédéral qui unit les trois cantons kurdes, Afrin, Kobané et Jazirée, et ainsi que les nouvelles régions qui ont été conquises au nord syrien. Donc c'est leur zone d'administration autonome. Avant, parce que bon, il faut avoir en tête l'idée que les Kurdes aimeraient bien avoir un gros pays, enfin un bout de pays déjà, avec une partie qui serait Turquie, alors là, ça va être compliqué, mais qui serait en Syrie et en Irak. Hein. Il faut savoir qu'au nord de l'Irak, les Kurdes ont déjà la gestion du nord de l'Irak. Là, c'est ce que veulent officialiser les Kurdes syriens. Et puis, ils veulent surtout mettre tout le monde face à la réalité de ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que les Kurdes, ils administrent déjà localement pas mal de choses. Et ce serait logique que la communauté internationale les reconnaisse et qu'arrête de soutenir la Turquie qui continue de massacrer à tour de bras les Kurdes, d'ailleurs.
Alors on part en Italie, j'aimerais vous parler de Blue. Blue, c'est un artiste de rue, il fait des fresques murales absolument gigantesques, c'est très très chouette. C'est un artiste qui est de Bologne, qui cache son identité. Et Blue a décidé d'effacer dans la nuit de vendredi à samedi dernier toute trace de son travail à Bologne. C'est une opération qu'il a menée avec d'autres artistes de rue, d'autres graffeurs. Ils se sont équipés de rouleaux, de peinture grise et de peinture beige. Et ils ont donc été à travers Bologne, dans tous les quartiers. Et ils ont effacé tout son travail, l'intégralité de son travail, soit près d'une vingtaine d'années d'intervention murale quand même, on parle. Donc c'est quand même gros travail de pour effacer tout ça. Alors il l'avait déjà fait, hein, c'était à Berlin quand il vivait là-bas. Il y avait des promoteurs immobiliers qui avaient utilisé une de ses fresques pour vendre des apparts de luxe, donc autant dire que ça ne lui avait pas du tout plu. Et puis alors on va me dire, mais pourquoi il a fait ça? C'est quoi? Il renie son travail? Il est fâché avec lui-même? Pas du tout. Alors, il faut savoir que depuis quelque temps, à Bologne, se baladaient des gens qui étaient en train de détacher des graphes, des pans de murs, des collages dans toute la ville. Et tout ça pour une exposition sur le street art.
Oui, ils leur piquaient leur truc pour aller les exposer.
C'est le musée de l'histoire de Bologne qui organise une exposition intitulée Street Art Bansky & Co. L'art à l'état urbain. Donc ça, c'est la prévue sur le mois de mars à Bologne. Donc c'est une exposition avec à peu près 250 œuvres qui sont censées raconter une autre histoire de Bologne et de son patrimoine. Et ben Blue, ça l'a agacé, surtout qu'il est présenté un peu comme étant l'une des stars de cette exposition, puisqu'on lui a pas demandé son avis, hein, et bien évidemment, enfin on aurait pu, mais en tout cas c'est pas le cas. Donc il a décidé de tout effacer en se disant c'est pas possible, je ne veux pas participer à ça. C'est-à-dire que ça fait appel à ce grand débat, qu'est-ce qui se passe avec ces œuvres d'art, c'est grave, parce que ça en vient des œuvres d'art, hein, c'est pas parce que c'est sur un mur, c'est fait dehors, que ça en est pas. Qu'est-ce qu'on fait avec, c'est quoi le droit par rapport à ces œuvres? Elles sont libres d'être vues, abîmées, protégées par tout le monde. Il y a l'usure du temps. D'ailleurs, beaucoup de graffeurs estiment que ça fait partie du truc. Hein, c'est l'usure, c'est comme ça. Et il y a depuis déjà quelque temps une certaine récupération de ces œuvres en plein air. Et donc, voilà, il y a le prélèvement vraiment des œuvres qui se fait assez régulièrement maintenant. Soi-disant beaucoup aussi pour les protéger. Parfois c'est vrai, mais souvent c'est un peu du n'importe quoi quand même, hein, parce que ça permet effectivement ce genre d'exposition. Et puis on se demande quelle est la légitimité de monter une telle expo sans le consentement des artistes. Ça, c'est aussi une vraie question. Donc, voilà. Alors vous allez me dire, mais qui c'est qui organise cette exposition? Alors, ce qui est très drôle, parce qu'on est en Italie quand même, donc il y a des choses qui s'ajoutent. Alors au centre de tout ça, on trouve Monsieur Fabio Roversi Monaco. C'est quelqu'un au niveau local qui est extrêmement connu. Il est dans le secteur bancaire, il est aussi dans le secteur des arts. Et globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce Monsieur Roversi Monaco, il est à la fois la personne qui est au centre de l'organisme qui a monté cette exposition et la personne qui est au centre de l'organisme qui le soutient financièrement. Donc finalement, il est au cœur de tout, c'est lui qui manipule tout, donc il est particulièrement visé dans la contestation. Et puis ça démontre aussi tout ça qu'il y a une recherche quand même de profit hein, sur ces artistes de rue. C'est-à-dire que pendant longtemps on a dit que le graffiti il fallait l'effacer, c'était de la merde, c'était du délit, du vandalisme. On a entendu les pires choses et puis d'un seul coup on voit des politiques, des financiers, même des galeristes mal placés qui viennent récupérer ces œuvres pour les vendre sans l'accord des artistes. Donc on est vraiment sur une recherche de profit. Alors c'est sûr. Moi, je me suis dit, ça doit être terrible quand on vit dans cette ville de voir tout disparaître d'un coup. Parce que il faut voir les photos. Allez, si vous avez un accès à Internet là tout de suite, vous pouvez aller voir. Il y en a partout dans Bologne. Il a été dans plein de villes parce que c'est quand même quelqu'un. Vous allez reconnaître, hein, je pense, une partie de son travail. D'un seul coup, voir tous ces murs vides, gris. Ça doit être absolument difficile à vivre, mais voilà, l'idée c'est qu'on peut pas leur laisser ce travail et les laisser profiter de ce travail. Et comme j'ai pu le voir, les élites méritent seulement des murs gris. Je trouvais que c'était une belle expression, une belle phrase. Et puis il y a un appel à boycott, je vais terminer là-dessus, puisque quand c'est dans la rue, quand c'est sur les bâtiments, c'est gratuit. Hein, c'est ça qui est bien. Là, l'exposition, c'est 13 euros.
Ouais,
donc,
oui.
Il y a un petit appel à boycott.
Du vrai business.
Il faut arrêter de se moquer de nous.
Alors, je vais vous parler de la blague socialiste.
Je rigole parce que je connais la chute.
Voilà, la blague socialiste du jour, puisqu'ils ont décidé de relever le salaire des fonctionnaires. Alors on se dit ouais, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, tout ça, ça va en plus relancer l'économie dans le principe keynésien, on augmente les salaires, donc voilà.
Ou là tu vas nous sortir les graphes.
Les gens reconsomment. Alors je vais pas défendre ça parce que je suis tout à fait pas d'accord avec cette idée de relancer la consommation, je suis plutôt pour qu'on ait une idée de déconsommation ou de décroissance si vous voulez. Mais en tout cas, ils ont annoncé tout à l'heure généreusement 1,2% de relevé du point d'indice, hein, c'est ce qui sert à calculer le salaire des fonctionnaires. Alors, ils sont tout contents. Faut dire qu'avant, ils avaient annoncé 1%. Les syndicats ont dit, vous vous foutez de notre gueule là ou il y a un souci? Alors donc, ils se sont dit, oh là là, ils l'ont mal pris, on va augmenter de 1,2. Alors passer de 1 à 1,2, c'est encore plus méprisant pour les syndicats et pour les salariés fonctionnaires. Voilà, faut savoir que le point d'indice est bloqué depuis 2010. Donc, si vous voulez, le pire dans tout ça, c'est la ministre de la fonction publique qui s'appelle Annick Girardin, qui était toute contente et qui a dit « Ouais, on a augmenté un peu plus et en plus, ça sera plus court puisqu'on aura 0,6% en juillet et 0,6% en février de l'année prochaine. » Waouh, 0,6% là en juillet. Ils vont être contents les fonctionnaires. Un petit calcul, j'ai pris les profs certifiés, échelon 4, il y a 11 échelons en tout. Salaire brut 2060 euros, salaire net 1700 euros. Grosso modo, les profs de l'échelon 4 vont gagner 10 euros de plus en juillet et 10 euros de plus en février, en tout 20 euros de plus sur un an. Eh ben, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose en un mois avec 20 euros. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut qu'ils se réjouissent et surtout, ne pas oublier voter socialiste, parce que c'est ça l'objectif. Alors à force de se foutre de la gueule de tout le monde, je suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui vote socialiste la prochaine fois. Ça sera bien fait pour eux. En tout cas, Annick Girardin a expliqué pourquoi c'était 1,2. Elle a dit parce que entre 2010 et 2013, le pouvoir d'achat des agents a baissé de 1,3%. Donc, on va le réaugmenter de 1,2. Alors, faut savoir que l'inflation, elle était à peu près ça, de cette valeur-là, sur cette période. En 2015, il n'y a pas d'inflation, mais en 2014, il y avait 0,5. Donc, déjà, elle a squeezé 0,5 plus 0,1%, 0,6% par rapport à l'inflation. Et puis si on compare à ce qu'étaient les salaires des enseignants, puisque là j'ai pris l'exemple des enseignants, des fonctionnaires enseignants, ce que c'était il y a 20 ans, ce que ça représentait et ce que c'est aujourd'hui, le chiffre a vraiment fondu. Donc c'est pas 1,2% qui va rattraper. Et c'est pas 1,2% qui va rattraper la moyenne européenne, qui est beaucoup plus élevée que ça. Les profs aujourd'hui font partie de la classe moyenne basse. Alors, vous allez me dire, c'est pas les pires dans la fonction publique. Ah, bien sûr, dans la fonction publique, il y a encore des gens qui sont payés beaucoup moins que ça, et qui, eux, n'auront même pas 10 euros d'augmentation, ils auront encore moins. Donc là, j'ai pris une valeur un peu moyenne. Bon, c'est du beau foutage de gueule, quoi qu'il arrive. Voilà, on fait cadeau de 40 milliards aux entreprises, et ça va coûter peut-être 1 milliard à l'État. Comme quoi, voilà, on estime que les salariés, donc c'est, je sais plus combien c'est, 1,5 milliard, peut-être plus, fonctionnaires, méritent 40 fois moins de choses que, grosso modo, le patronat, qui représente quelques dizaines, peut-être centaines de milliers de patrons, mais pas plus.
Donc voilà. Moi, si je fais un bilan de ce que tu viens de dire, les fonctionnaires seront pas plus heureux. Par contre, ça va coûter encore bonbon parce que quand
ça
même.
Ça va coûter un petit peu.
Bah, ça coûte quand même. Je veux dire, mais ça coûte pour rien. C'est-à-dire que ça rendra pas les fonctionnaires heureux. Donc c'est une mesure qui, en plus, politiquement, ne sert à rien pour eux. Enfin. Ouais. Voilà mon bilan, ça ne sert à rien. Donc.
Ouais, exactement. Bon, après, c'est pas fini, la négociation est en cours et on peut rêver des 8% hein, qu'avait demandé, je crois, je sais plus quel syndicat. Mais voilà, c'est.
Non, mais auditeur, auditrice, ça nous fait sourire. Et on est pour les 8%, mais ça nous fait sourire. On veut bien soutenir les fonctionnaires.
On poursuit avec un petit mot sur les banques françaises. Donc, faut savoir qu'il y a une loi bancaire qui est passée il y a pas longtemps et qui a sa première application sur ce qui s'est passé en 2015. Une loi dite de transparence. Et là, alors c'est plusieurs associations, organisations, on va dire, il y a la CCFD, le Comité catholique français, je sais plus ce que ça veut dire, un truc comme ça là.
Contre
la faim ou oui. Ouais, bon, bref, vous savez ce que c'est. Terre solidaire, Oxfam France, je crois qu'il y a le Secours catholique aussi au milieu, qui ont fait un rapport après une analyse donc de cette première déclaration des banques sur ce qu'elles ont fait de leur argent, comment elles ont gagné, comment elles ont dépensé en 2015. Et alors, qu'est-ce qu'on apprend ? Plein de choses. D'abord, on se rend compte qu'il y a une grosse déconnexion entre les bénéfices déclarés dans les paradis fiscaux et l'activité réelle dans ces paradis fiscaux. En gros, s'il y a une anomalie quelque part. Alors, par exemple, les banques françaises réalisent un tiers de leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est pas mal, hein, 33%. Et pourtant, ça représente que un quart de leurs activités. Alors déjà, c'est louche. Je vous parle même pas du type d'activité qu'elles ont dans les paradis fiscaux. Et ça représente seulement un cinquième de leurs impôts et seulement un sixième de leurs employés. Oula, mais donc c'est grosso modo, si vous faites un bilan de productivité, les employés dans les banques françaises qui travaillent dans les paradis fiscaux rapportent beaucoup plus d'argent que le salarié qui bosse dans l'agence du coin de votre rue. Ah, vous allez dire, c'est pas la faute au salarié, mais c'est la faute à tout ce qu'il y a derrière, bien évidemment. Alors, dans les chiffres, dans la continuation de l'analyse, alors le Luxembourg, hein, c'est le paradis fiscal qui est au cœur de l'Union européenne, à lui tout seul, c'est 11% de ses fameux bénéfices supplémentaires. Les cinq grosses banques françaises là sont 60% plus lucratives dans les paradis fiscaux que dans le reste du monde. Donc ça gagne beaucoup plus d'argent d'aller dans les paradis fiscaux. Alors, on sait pourquoi, hein, c'est les différentes activités qu'elles y ont, qui sont d'ailleurs, dans le rapport, on découvre qu'elles sont très différentes hein, des activités. Grosso modo, les banques, chez nous, ont des activités de dépôt d'argent, elles ont des clients réels, hein, qui viennent déposer leur argent, leur salaire, etc. Alors que dans les paradis fiscaux, il y a très peu de vrais clients. Il y a des multinationales, des très riches, mais qui sont pas clients du paradis fiscal, mais de la banque ailleurs et qu'elles délocalisent quelque part leur argent dans les paradis fiscaux. Et alors sur les impôts, à taux de profit égaux, les banques françaises paient deux fois moins d'impôts dans les paradis fiscaux. Alors c'est que deux fois moins, vous me direz. Mais alors, ça va plus loin. Dans 19 cas, les banques françaises y paient zéro impôt. C'est pas mal quand même. On comprend pourquoi ils vont dans les paradis fiscaux. Et ensuite, il y a effectivement tout ce qu'on entend, ce qu'on imagine derrière tout ça, une partie de déplacement artificiel des bénéfices qui ont lieu ailleurs, hors paradis fiscaux, qu'on rapatrie dans les paradis fiscaux pour échapper en tout ou en partie aux impôts. Faut savoir, hein, je vous rappelle que l'évasion fiscale, donc que les banques mettent en œuvre pour elles-mêmes et pour leurs clients riches, ça représente entre 40 et 60 milliards d'euros en moins dans les caisses de l'État, hein, ce qui explique en partie les déficits de l'État français. Hein, si les riches milliardaires et les multinationales, les entreprises, les patrons, grosso modo, ne trichaient pas, il y aurait certainement pas de déficit en France. Alors c'est un premier exercice de transparence et on est bien content d'avoir ces résultats. On apprend pas mal de choses, alors je ne vais pas tout détailler, mais tous les chiffres sont disponibles hein, du coup du rapport et de ce que les banques ont donné. En conclusion, on peut dire que ça doit être la première étape. La première étape, pourquoi ? Parce que la deuxième étape, eh bien, c'est de demander la même chose aux multinationales, hein, qu'on ait un peu de transparence dans leurs comptes. Alors c'est ce qui est prévu dans la loi de la transparence économique qui sera étudiée dans quelques semaines à l'Assemblée nationale. Et on espère qu'ils vont introduire tout ça dans cette loi sur la transparence. On n'y croit pas trop, mais on espère beaucoup. Ça s'appelle le reporting public, hein, le terme officiel où les entreprises, et les, donc, dont les banques et là les autres multinationales, déclarent la réalité de leurs gains, de leurs pertes, de leurs investissements, etc., etc. Et puis, la troisième étape, c'est il y a le vote du reporting public, cette fois par les eurodéputés, puisqu'il y a une directive qui s'appelle droit des actionnaires, qui est en discussion au niveau de l'Union européenne, en espérant que là aussi, au niveau de l'Union européenne, il y ait un vote sur l'obligation de ce reporting public, cette obligation de transparence, pour qu'on sache un petit peu ce que font les entreprises, et notamment les multinationales, de l'argent qu'elles nous prennent hein, quand on achète leurs produits, puisque c'est pas toujours évident d'échapper aux produits des multinationales, même quand on essaye d'y échapper.
Alors on va voir une petite page média et j'avais envie de vous parler de 20 minutes. Alors d'abord j'ai lu un article sur le site desinrep.fr et puis je suis allée chercher par moi-même. Alors de quoi parlait cet article ? Cet article parlait d'un papier du site 20minutes.fr daté du 13 mars dernier. Un article écrit comme toujours avec l'AFP, un de ces articles très courts, on n'apprend pas grand-chose, avec un sous-titre « Attaque, au moins un Français a été tué dans l'attaque de la station balnéaire ivoirienne de Grand Bassam ». Ce qui est intéressant, c'est le titre. Côte d'Ivoire, 2. L'attaque d'une station balnéaire revendiquée par ACMI, 14 civils tués, dont 4 blancs. Vous avez bien entendu, 4 blancs sont donc morts. C'était le titre de 20 minutes. Alors, ces 4 blancs reviennent dans le texte. 14 civils, dont 4 blancs, ont été tués dimanche, a annoncé le ministre ivoirien de l'Intérieur. Il faut savoir que ils annoncent ça dans ce titre d'une manière un peu bizarre, c'est-à-dire qu'ils ne font que relayer une partie de ce qui a été dit d'ailleurs dans cette déclaration ministérielle en Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de citation, il n'y a pas de guillemets, il n'y a rien. Donc évidemment, pris comme ça, je vous dis même pas comment le machin s'est baladé sur les réseaux sociaux et que ça a fait un petit peu jaser quand même. Alors, 20 minutes là-dessus réagit, toujours dimanche, et change son titre, attaque en Côte d'Ivoire, le récit d'une journée noire.
Ah, ils ont mis le mot noir, mais c'est...
On parle de blanc, on passe à noir.
C'est marrant.
Et puis, le 14 mars, lundi, nouveau titre, Côte d'Ivoire, toujours les 2, le récit de l'attaque de la station balnéaire de Grand Bassam. C'est-à-dire qu'ils ont eu du mal avec cet article, il faut le dire. Certes, ils ont amené un petit peu de temps en temps une précision, mais globalement, c'est assez typique de ces papiers qui sont écrits avec AFP, comme c'est souvent signalé en tête d'article, qui sont mis en ligne très rapidement, qui sont pas relus. Je pense qu'on a l'impression que même des fois, les gens ne savent même pas de quoi ils parlent quand ils l'ont mis en ligne. Hein. C'est juste qu'ils ont vu une info, une dépêche arriver, ils la mettent en ligne et ils font pas attention. C'est comme ça que des fois on retrouve d'ailleurs la même faute un petit peu sur les mêmes sites internet, puisqu'il y a beaucoup de copier-coller. Et puis là quand même, aller mettre ce titre comme ça, c'est vraiment n'avoir cherché aucune information, n'avoir rien relayé, c'est du raccourci, c'est de la rapidité. Globalement, c'est du très mauvais journalisme, il faut le dire quand même, d'ailleurs on est même carrément pas. Et puis, si tu me permets, je sais que je ne l'avais point noté dans le déroulé, mais je voudrais quand même lancer un appel aux étudiants et aux étudiantes qui seraient en marketing, en communication d'entreprise. Moi, je ne sais pas si vous savez, très cher auditeur, auditrice, que pour vous aider dans vos études, vous pouvez aller lire Lyon Plus. Moi, je l'ai lu plusieurs fois cette semaine, mais j'ai retenu l'édition du lundi 14 mars, où sur les pages de droite, oui, sur les pages de droite, avec écrit en haut « Emploi alternance » comme un titre de Lyon Plus, et avec en bas une publicité demi-page, nous avons ces articles publics communiqués. Et cette semaine, c'était lundi, la SNCF s'est payée 2 de ces publics communiqués. L'un, c'était la SNCF recherche des apprentis, et l'autre, c'était des compétences clés pour SNCF. Voilà, donc je vous conseille pas de lire Lyon Plus pour apprendre quelque chose, non. Pour chercher l'information ou pour vous mettre à jour sur l'actualité. Non. Par contre, en tant que vraiment que communication d'entreprise ou stratégie de je te vends de la pub et j'y mets un peu de rédactionnel au milieu, c'est un très très bon support. Je vous invite donc tous et toutes à le lire dans ce but. Et puis en même temps, ça vous permet de faire aussi de la critique des médias si vous êtes prof, enseignant par exemple. Je pense que c'est aussi un bon outil. Donc voilà, on est très content d'avoir ce genre d'outil à Lyon. Ça nous permet d'avoir une bonne pédagogie et puis de nous aider aussi dans nos études, parce que franchement, ça vaut le coup tous les matins de prendre Lyon Plus dans le métro.
On va parler un peu de l'état sécuritaire avec une bonne nouvelle qu'on attendait vraiment, mais qui vient de tomber sur la révision constitutionnelle et notamment la déchéance de nationalité. Puisque la perspective du fameux congrès, hein, où on réunit tous les élus de la République au niveau national, et on décide d'un changement constitutionnel. Tout ça est bien sûr voulu par François Hollande. Ça semble bien compromis, puisqu'aujourd'hui le Sénat vote. Et vote quoi ? Vote le volet controversé là sur la déchéance de nationalité. Et c'est mal parti. Alors pourquoi c'est mal parti ? Parce que, si je reviens un petit peu en arrière, le 10 février dernier, les députés avaient choisi de l'ouvrir à tous les Français, cette déchéance de nationalité. Suite aux critiques, le PS a fait modifier un peu le texte. Au départ, ça devait s'adresser, bien sûr, qu'aux binationaux. Et là, ça s'adressait à tous les Français, avec l'idée, le risque et la réalité de créer des apatrides. Les sénateurs, notamment de droite, mais de gauche aussi, puisque personne n'est d'accord là-dessus, sont divisés. Et ils ont décidé de réécrire tout ça, et de remettre dans le texte que ça ne s'adresse aux binationaux. Alors, ils n'écrivent pas ça comme ça, ça s'adresse aux personnes disposant d'une autre nationalité que la nationalité française. Or, bon, là, c'est les débats internes, le Sénat, tout ça, mais l'intérêt, c'est que le Sénat, s'il ne vote pas le même texte que l'Assemblée, ils ne peuvent pas aller au Congrès avec ce texte-là. Et donc c'est ce qui a été fait, ce qu'on s'y attendait. Donc c'est une bonne nouvelle parce que ils ne vont pas pouvoir écrire dans la Constitution la déchéance de nationalité. C'est une victoire, certes merdique, mais c'est une victoire quand même. Par contre, il y aura peut-être un congrès. Alors là, ce qui va se passer maintenant, ça va dépendre du président de la République qui peut décider, avec ce qui vient de se passer, d'aller quand même à un congrès pour modifier la Constitution et de rajouter la notion d'état d'urgence avec tout ce qu'ils ont prévu de réécrire dans la Constitution, ce qui serait déjà un recul pour les droits publics, mais moindre que d'écrire la déchéance de nationalité. Donc voilà, finalement, ça nous fait plaisir que tous ces liberticides de droite et de gauche n'arrivent pas à s'entendre, ce qui empêche l'écriture dans la Constitution de ces choses relativement horribles qu'ils nous ont préparées et qu'ils ne vont pas pouvoir valider.
Alors, je voudrais qu'on parte à Orange.
Ah, une belle ville, des années de gestion de l'extrême droite.
Qui est tenue par M. Jacques Bompard, l'île du Sud. Ça croustille.
Ah bah, a priori, les Orange, je sais pas comment on dit, les gens qui habitent Orange, ne respirent pas la joie de vivre après ces années de domination de l'extrême droite.
Il paraît que ça dépend lesquels. Mais bon, nous, on va s'intéresser au Corégie. C'est un festival d'art lyrique et de musique classique. Et le festival était dans la tourmente. Alors, c'est pas nouveau, hein. Alors, bon, on va essayer de faire ça dans l'ordre. Raymond Dufaux, directeur général des Corégies, est à la tête du festival depuis 1981. Et il devait céder sa place en 2018 à Jean-Louis Grindat, directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Jusque-là, vous suivez. Thierry Mariani, oui, le député, président depuis 20 ans de l'Association des Corégies, a démissionné en janvier en signe de désaccord face au choix de Jean-Louis Grindat. Vous suivez toujours. Là, selon les statuts de l'association, l'adjoint au maire assure l'intérim de la présidence en cas d'empêchement du président. C'est là que tout va foutre le camp, je vous préviens. Et c'est donc Marie-Thérèse Galmar, maire adjointe chargée de la vie sociale, qui prend les commandes du conseil d'administration en janvier avec cette démission de Thierry Mariani. Suite à ça, Raymond Dufaux, vous vous souvenez, directeur général des Corégies, démissionnait vendredi dernier après, il faut dire, quand même des semaines de tension avec la municipalité. Il dénonce un coup de force et il demande l'organisation d'une nouvelle élection. Bompard, de son côté, estime que c'est une présidence qui doit courir jusqu'au terme de celui qu'avait M. Mariani, soit mars 2018. Là-dessus, vous avez compris, c'est le bazar, tout le monde a démissionné, il y a des gens en place dont les autres ne veulent pas. Là-dessus, le ministère de la Culture avec Madame Azoulay et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec Monsieur Estrosi se rencontrent ce week-end et menacent de retirer toutes les subventions. Et ils ont fait une déclaration commune quand même ce dimanche. Madame Azoulay PS et Monsieur Estrosi les Républicains ont fait donc cette déclaration commune dimanche. Et alors finalement, mardi, la municipalité a annoncé renoncer à présider, donc diriger les Corégies d'Orange. Monsieur Bompard a estimé que ça pouvait porter préjudice aux Corégies. Il a même déclaré au Monde, s'il faut immoler la présidence intérimaire sur l'autel du festival, alors nous le faisons. Avec des grandes envolées comme ça, je te rappelle que tu es dans une ville d'extrême droite quand même. Alors bon, c'est pas vraiment la perte des subventions, je pense, hein, d'ailleurs je suis pas la seule à le penser, qui a fait reculer la municipalité d'Orange. Il faut savoir que le festival a un taux d'autofinancement assez important, on parle de 80-85%, ce qui fait que finalement il y a des subventions qui comptent et qui pèsent assez peu. La billetterie, c'est vraiment, vraiment le truc important du festival. Et le problème, c'est qu'avec cette polémique, ce scandale, ça aurait pu faire chuter la fréquentation. Il faut savoir que le festival va avoir lieu à partir du début juillet jusqu'à début août. Donc, il y a la mise en vente de la billetterie qui se fait, et donc ça pouvait porter préjudice à la fréquentation, donc aux retombées économiques à la fois du festival, mais aussi pour la ville. Et puis ça pouvait peut-être gêner après les mécènes, qui restent toujours un élément aussi important, hein, pour un tel festival, parce qu'il y a la billetterie, mais il y a les mécènes. Et puis une des dernières questions, c'est est-ce que les artistes auraient voulu venir, si jamais il y avait encore une fois une polémique à Orange, un nouveau scandale à Orange, parce que tant qu'il y avait un peu d'indépendance, vous savez, les artistes, ils font la part des choses, ils se disent, on va quand même aux Corégies.
Oui, enfin, ceci voilà. Dit, moi, j'ai aucun respect pour ces artistes qui vont aux Corégies, alors que la ville est dirigée par l'extrême droite depuis X années, et qu'ils n'ont pas soutenu non plus les petites assos qui se sont fait bouffer au début de l'arrivée des fascistes à Orange. Hein.
Si tu veux, je te laisse.
Bon, enfin, c'est, oui, c'est alors, un avis personnel.
Donc, il paraît qu'il va y avoir donc une nouvelle élection dans un délai raisonnable. On ne sait pas bien ce que ça veut dire, comme toujours avec le délai raisonnable. Bientôt, en tout cas, tout bientôt. Alors le truc, c'est qu'on peut déjà se dire que la mairie, la municipalité, elle va certainement avoir un candidat ou une candidate. Hein, mais on peut se dire que le ministère de la Culture, il va certainement s'y pousser pour amener quelqu'un. On peut penser que Raymond Dufaux, il va mettre aussi son grain de sable, que Monsieur Mariani va aussi revenir sur la question, chose qu'il a pas manqué de faire déjà depuis mardi dans la presse. Le conseil d'administration est composé de 4 représentants de la municipalité, 1 représentant de la communauté du Pays d'Orange, 3 représentants de l'État, 1 de France Télévisions, puisque le festival est retransmis. Et partenaires, 1 de Radio France, 3 de la région, 3 du département et 9 représentants des adhérents des Corégies. Donc pour vous dire que tout ça, ça va débattre et certainement un petit peu quand même continuer à se mettre sur la tronche. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir aujourd'hui les élus, comment ils jouent avec la culture et comment ils essayent toujours de se positionner en sauveur. Monsieur Bompard s'était dit prêt à revoir sa participation financière positivement, hein, dans ce festival. Et puis depuis, il a changé d'avis. A priori, il boude, il est fâché, on lui a rentré dans l'art, il est pas content, donc il est plus sortir la thune. Bon, voilà, après c'est un festival plutôt grand public, hein, qui vit comme je vous laisse la billetterie, voilà, on en pense qu'on en veut au niveau artistique. Reste que vivre quand même sous l'extrême droite, c'est quand même pas tous les gens facile.
Oui, et puis on a vu assez peu, voire pas, d'artistes qui montent sur scène au Corégie avec un petit t-shirt, une veste, quelque chose sur lequel il y a un symbole pour montrer qu'on est en opposition avec la gestion
de
l'extrême droite.
Alors moi je vais pas au Corégie, donc je n'en sais absolument rien.
Mais voilà, pour avoir vu des images, voilà, vraisemblablement les artistes invités au Corégie ne disent rien et qui ne dit mot. Bon, après, je vous laisse imaginer la suite.
Tu sais, le secteur de la musique ancienne et la musique classique, c'est un secteur qui a gardé un certain code et parfois c'est très difficile pour eux d'arriver à s'exprimer, je trouve. Mais parce qu'ils sont guindés dans ces codes et de ces traditions, il y a un moment, effectivement, ça serait bien qu'ils l'explosent et qu'ils rejoignent aussi les autres artistes qui participent à cette lutte et ça serait aussi intéressant de les entendre. Alors, juste pour vous dire que, on vous en a parlé la semaine dernière, pour le musée des tissus, c'est donc validé pour un financement pour le reste de l'année 2016. Hein, vous avez raconté la semaine dernière qu'une réunion, une assemblée générale était prévue ce lundi. Il s'est passé ce qui devait se passer. Le budget a été voté. Maintenant, reste à savoir ce qui va se passer. Je vous le disais la semaine dernière pour 2017. Et puis, lors de cette réunion-ci, de cette assemblée générale, on a appris que 29 postes étaient supprimés à la CCI. Hein, bah oui, ils sont censés faire des économies. Je vous rappelle que, je vous l'ai pas dit la semaine dernière, mais c'est une fusion, en fait. C'est pour ça qu'il y a ce grand nom, Saint-Étienne, Roanne, tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est une fusion des CCI. Alors déjà, ça a fusionné, donc on a perdu, évidemment, des postes. Mais en plus de ça, évidemment, on leur demande de faire des économies. Donc il y a encore une coupe budgétaire qui se fait sur ces postes-là. Voilà, il paraît que ça négocie ferme auprès de certains mécènes pour arriver à trouver des sous pour ce musée des tissus. Reste que quand même la solution la plus pérenne serait que l'État s'engage une bonne fois pour toutes pour savoir ce qu'on fait de cette belle très belle collection.
Puis en faire un musée national, ce qui serait pas un mal, puisqu'il n'y a pas de musée des tissus, enfin, a priori, en tant que musée national.
C'est un peu facile toujours de vouloir vanter la qualité des collections en allant au Japon, par exemple, hein, parce que c'est des choses qui ont été faites par des politiques qui se servent d'un tel lieu, puis en plus, après, ne pas vouloir le soutenir. C'est-à-dire qu'à un moment, bah, voilà, on assume, et puis il y a une question patrimoniale aussi sur ce lieu qui est aussi très importante, et ça aussi, l'État pourrait peut-être l'assumer.
Alors, il est temps de faire une rubrique avec pas mal de brèves environnementales et radioactives. On va commencer par des militants qui graffent et qui sont devant le tribunal. Alors, l'histoire, c'est depuis mai 2005, tous les vendredis soirs, des militants, notamment paysans, entre autres, dénoncent les importations de soja transgénique destinées à nourrir le bétail européen. Vous savez, dans l'idée que tout le monde rejette les OGM, notamment en France, hein, c'est pas mal rejeté, et que donc, par ce rejet, on ne mange pas d'OGM. C'est pas tout à fait vrai, en fait. Il y a une voie indirecte qui est très très importante, c'est que le bétail industriel est élevé au soja qui est importé en grande majorité, et notamment pas mal de soja transgénique. Donc ce que dénoncent ces militants, c'est l'hypocrisie qu'il y a sur l'importation de ce soja transgénique en grande quantité qui nous vient de l'autre côté de l'océan Atlantique. Donc ces militants plaident notamment pour une relocalisation de l'alimentation animale, un étiquetage aussi des produits issus d'animaux qui ont mangé des OGM, pour que le public soit averti. Bon, bref, ils militent comme ça tous les vendredis soirs donc depuis mai 2015. Et le 2 octobre dernier, c'est ces militants qui sont des faucheurs volontaires, vous les avez peut-être reconnus, ils peignent des graffitis à l'entrée du port. Du style, ici, 660 000 tonnes de soja OGM, que fait-on ? Enfin voilà, plein de choses comme ça. Et le 12 février dernier, donc il y a un mois, quatre personnes sont convoquées au tribunal. Et lors de cette convocation, le procureur leur propose un deal. Et le deal, c'est vous donner 300 euros d'amende, hein, et on abandonne les poursuites. Ah là là, on se croirait aux États-Unis, là. On achète les mecs. Allez, vous avez fait une connerie. Donnez de la thune, on oublie. Bon, a priori, ils ont été surpris, les faucheurs volontaires, qu'on leur propose ça. Et surtout, ils adhèrent pas. Pourquoi? Bah parce que ils aiment bien passer en justice. Il faut dire que quand il y a des procès, sur les faucheurs notamment, ça médiatise leur action. Et quelquefois plus, d'ailleurs, que l'action de départ. Du coup, ils se servent de ça pour faire parler d'eux, de leur lutte, qui est en plus, en général, sur les OGM, plutôt partagé par la population. Donc ils ont dit non. Et ben voilà, ils vont donc être convoqués au tribunal pour avoir tagué. C'est nouveau pour les faucheurs. D'habitude, ils sont convoqués pour avoir fauché des plantes transgéniques. Là, ils sont convoqués pour avoir tagué. Voilà. Donc c'est assez drôle. Assez drôle quand on sait que le port de Lorient, donc là où ils ont tagué, fait partie de la région Bretagne. Et la région Bretagne, officiellement, se dit région sans OGM. Ah, c'est quand même bizarre, une région sans OGM qui importe des OGM et qui poursuit des faucheurs qui ont écrit, qui ont dénoncé finalement sur les murs, hein, sur qu'il y avait de l'importation d'OGM. Il y a un petit problème. En tout cas, voilà, donc ça leur permettra justement, ce procès, de parler à nouveau de l'alimentation OGM qui est donnée au bétail, notamment dans l'agriculture productiviste. Et puis on va revenir maintenant sur Michel Aubier. Alors, Michel Aubier, je ne le connaissais pas avant de lire l'article du Canard Enchaîné.
C'est une star quand même, il faut le dire maintenant.
Bah, c'est devenu une star. Et c'est la honte pour les médecins qui ont, eux, qui ont Michel Aubier comme collègue. Hein, faut quand même le dire. Alors, l'histoire de cette polémique. Donc il est pneumologue, hein, à l'hôpital Bichat, qui fait partie de l'APHP, ce réseau d'hôpital parisien. Donc il est accusé, depuis quelques jours, d'avoir désinformé sur l'impact de la pollution sur la santé, alors très exactement, de l'impact des particules émises par les moteurs diesel sur la santé. Alors tout ça a commencé finalement, la polémique a commencé, et pas son discours ambigu, voire faux scientifiquement. Mais la polémique a commencé le 1er mars dernier, quand il a été invité sur le plateau de Allô Docteur, une émission de France 5, qui est animé par, je crois, le monsieur Simiès, qui est très très connu. Et donc lui, il est invité par, voilà, il vient parler de la pollution et des cancers, et il dit, je cite, « Ce qui a juste été démontré sur les cancers, c'est essentiellement des cancers dus à l'exposition assez forte à la pollution, c'est-à-dire une exposition pour les professionnels. » Ceux qui se mettent le nez dans le gaz d'échappement pour sentir l'odeur, par exemple. Je sais pas quel professionnel il parlait, mais bon, voilà, bref. En ce qui concerne les expositions qu'il a qualifiées de naturelles, c'est-à-dire vous et moi qui marchons dans la rue, c'est actuellement beaucoup plus discuté. Laissant entendre que c'est faux, quoi, qu'il n'y a pas de cancer lié à la pollution, à la merde qu'émettent les diesels. Alors il explique ensuite, il semble que ce soit un facteur favorisant chez les sujets qui ont déjà une prédisposition à développer des cancers, c'est-à-dire les fumeurs ou les personnes exposées avec leur profession, donc ça rajouterait un facteur de risque. Alors, sur le plateau, personne ne dit rien. Alors c'est, pourtant scientifiquement, on sait que c'est faux ce qu'il dit. Enfin, je veux dire, il y a eu moult études, enfin, voilà. Bon, bizarrement, il semble y avoir une connivence, une collaboration des journalistes de France 5 là-dessus. Et puis, forcément, c'est diffusé. Puis il y en a qui le voient, et puis c'est qui envoie des infos à d'autres. Allez voir le truc, c'est horrible, ils racontent n'importe quoi. Enfin, j'imagine un peu ce qu'on peut dire les collègues médecins, scientifiques aussi. Et du coup, ça monte. Et le 15 mars, premier communiqué qui tombe du collectif qui s'appelle Strasbourg Respire et qui compte dans son sein des docteurs, notamment une allergologue, Florence Trébuchon, un radiologue, Thomas Bourdrel, Pierre Souvet, qui est cardiologue aussi, qui est aussi président de l'association Santé Environnement France, qui regroupe 2500 médecins. Donc bref, des gens qui ont certaines reconnaissances dans leur travail scientifique et médical, et qui, eux, publient un communiqué en disant « mais il faut arrêter les références bibliographiques récentes », et ils citent toutes les études qui ont démontré l'inverse, et ils redonnent les chiffres. Une hausse de la pollution aux particules fines de 5 microgrammes par mètre cube augmente le risque de cancer du poumon de 18%. Une hausse de 10 microgrammes par mètre cube des plus grosses particules, les fameuses les PM10, augmente de 22% le risque de cancer. Cette augmentation du risque atteindrait même 50% pour l'adénocarcinome, j'y suis allé doucement pour pas me tromper, qui est une des formes particulières du cancer du poumon. Donc eux, ils réexpliquent vraisemblablement que tout ce qu'ils racontent, l'autre gars, c'est faux. Et ils vont plus loin, ils disent mais qu'il n'y a pas de différence d'impact de la pollution sur les fumeurs et sur les non-fumeurs. D'ailleurs, tout le monde, quand tu respires trop de particules, que tu fumes ou que tu fumes pas, t'augmentes énormément ton risque de cancer. C'est ce que les études ont démontré, ce qu'on savait déjà, et ce que voilà ce qui est redit par ce groupe de ce collectif Strasbourg Respire. Donc la question qu'on se pose, est-ce que c'est une simple erreur ou est-ce que ce médecin est incompétent? Alors, c'est à vous de répondre. Moi, je ne me permettrai pas de répondre. Hein, vous imaginez bien. Hein. Mais en tout cas, trois articles sont parus dans Libération, Le Canard Enchaîné et Le Monde. Et ça laisse entendre que, en fait, il y a un énorme conflit d'intérêts. Donc, le conflit d'intérêts, je vous rappelle, c'est quelqu'un qui, parce qu'il travaille pour ceux qui font la chose pour laquelle il doit faire une étude, mente sur cette étude, pour pas finalement mettre à mal leur travail avec leur employeur, ou l'argent qu'ils touchent en subvention, etc., etc. On connaît bien les conflits d'intérêts, puisque ce fameux Michel Aubier est notamment conseiller, enfin médecin conseil chez Total, qui fabrique du diesel qui va être brûlé. Alors lui, il dit qu'il n'y a pas de lien, forcément, parce qu'il est médecin conseil. Il a quand même dit qu'il avait oublié, mais qu'il avait oublié de dire qu'il bossait pour Total. C'est un oubli, quoi. Vous imaginez, vous travaillez pour une boîte, et puis on vous parlez d'un sujet lié à votre boîte, vous dites rien. Alors qu'il y a une règle, hein, où il faut déclarer les conflits d'intérêts, etc. Alors, du coup, ça a énervé notamment la commission d'enquête du Sénat, qui l'avait convoqué et qui l'avait pas convoqué dans le sens méchant, hein, qui lui avait demandé de parler justement de la pollution, et où il avait fait là aussi un gros discours en disant qu'il n'y a pas de problème avec la pollution du diesel. Et là, au Sénat, il est dans la commission d'enquête, il est obligé de dire les conflits d'intérêts. Et il l'avait pas dit non plus. Enfin voilà, il y a plein d'actions. Alors, si on reprend tout ce qu'il a dit, ce gars, c'est une catastrophe. Hein. Sur l'antenne de certaines radios, il est allé dire que la pollution n'avait aucun impact sur la santé et qu'il fallait faire du jogging quand il y avait des pics de pollution. Alors que les conseils environnementaux, enfin les conseils de protection de la population disent l'inverse. Il faut pas faire de sport le jour de pics de pollution. Il faut pas sortir les enfants dans les cours de récré. Enfin voilà. Donc il est pris en flagrant délit de mensonge. Et on comprend le mensonge. C'est lié vraisemblablement à des conflits d'intérêts. Voilà, c'est pas rassurant, mais c'est pas le premier et ça malheureusement sera sûrement pas le dernier.
Oui, tout à l'heure tu parlais de collaboration des animateurs ou journalistes de France 5. Moi, ce qui m'inquiète davantage, c'est que ça soit de l'ignorance, parce que là, c'est bien pire. C'est-à-dire que la collaboration, on a un acte volontaire que nous on rejette, mais l'ignorance de tous ces animateurs ou soi-disant journalistes, parce qu'il y en a, ils ont des cartes, mais finalement ils se tiennent au courant de rien. C'est juste un laisser-passer. Ça m'inquiète davantage, si tu veux, que la collaboration finalement.
Bon, alors l'ignorance à ce point-là, c'est quand même difficile, parce qu'on sait que les études. Les études paraissent régulièrement sur l'impact des pollutions des particules, que ce soit les petites, les PM5 ou les PM10. Enfin bon, bref, on va poursuivre en parlant un peu de BD dans cette rubrique environnementale, avec la BD vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Au cœur de Fukushima. Alors c'est pas une BD, c'est un manga, excusez-moi. Donc ça nous vient du Japon. C'est Kazuto Tatsuta qui a écrit une BD en 3 tomes, le premier tome est sorti il y a quelques semaines, sur son travail, lui, en tant que travailleur de la centrale nucléaire dite 1F, donc une centrale nucléaire du Fukushima Daiichi qui a explosé il y a 5 ans lors du tremblement de terre, et de l'effet qui se coule, qui était le tsunami. Alors, l'intérêt de cette BD, c'est que, contrairement à ce qui a pu être dit, notamment dans Le Monde, ils ont dit des bêtises, c'est que Kazuto Tatsuta est pas un militant anti-nucléaire, et ça se sent. Parce que quelquefois, il fait des remarques en disant « Regardez, les anti-nucléaires disent des bêtises, c'est pas si grave que ça sur 2-3 trucs. » Donc en fait, c'est quelqu'un qui est, et on retrouve le nationalisme japonais dans une partie de son discours, c'est de dire, il y est allé, parce qu'il faut montrer que le Japon maîtrise la technologie. Quand il y a un accident, le peuple japonais se mobilise pour donner une autre image du Japon. On va arriver à résoudre le problème, qui est toujours pas résolu 5 ans après, de l'accident nucléaire de Fukushima. Donc on retrouve derrière son discours ce petit nationalisme. Mais ce qui est très intéressant dans la BD, c'est pas tout ça, mais il faut avoir ça en tête, faut connaître ça, faut comprendre pourquoi de temps en temps il fait ses remarques un petit peu décalées là, que nous en tant que Français on a du mal à dire. Je pense qu'il y a un accident nucléaire à la centrale du Bugey, je suis sûr qu'il y a beaucoup de Français qui aillent prendre des doses de radiation pour sauver la centrale nucléaire, hein. Et moi je le ferai pas. mais en même temps, je suis contre la centrale nucléaire du Bugey. Bon, bref, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il raconte ce qu'il a vécu réellement, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que quand on comprend qu'il n'est pas anti-nucléaire, tout ce qu'il dit, ça a encore plus d'impact. Parce que il donne pas les choses pour critiquer, mais pour montrer comment ça se passe. Du coup, c'est bien plus fort. On sait que c'est pas un militant, donc c'est encore plus fort. Il se prend vraiment pour un journaliste, il fait le travail de journaliste. Et du coup, il décrit toute la situation quand on va travailler dans cette centrale, tous les trucs qu'on jette tous les jours, l'horreur finalement de cette catastrophe. Alors je pense qu'il essaye pas, il essaye un peu de minimiser les choses, mais ça marche pas. Et on voit toute l'ambiguïté, la complexité d'aller sur un lieu après un accident nucléaire, l'évolution aussi, puisque ce premier tome finalement se passe sur déjà plusieurs mois, et c'est vraiment très très intéressant de voir le travail des gens qui vont souvent pour l'argent, hein, faut quand même aussi le voir. Il n'y a pas que le nationalisme japonais qui motive ses salariés, parce qu'il y a un problème de chômage, et donc voilà, les pauvres ils y vont aussi pour prendre des doses et pour gagner de l'argent. Voir dans quelles conditions ils travaillent et voir l'horreur finalement d'un accident nucléaire au jour le jour pour ceux qui sont obligés de réparer la merde, parce que c'est ça dont il est question, c'est de réparer ce qui s'est passé après. Enfin, ce qui se passe après. Donc voilà, très beau manga que je vous incite à lire, qui s'appelle donc Au cœur de Fukushima. C'est le premier tome. Les deux autres tomes sortiront dans la foulée. Et puis, il nous reste encore 3 minutes. Dans la dernière info de cette rubrique environnementale et radioactive, j'ai encore 2 petites infos. L'avant-dernière, c'est Macron. Monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie de droite, du gouvernement socialiste de droite aussi. Donc il a assuré, parce qu'il visitait une centrale nucléaire aujourd'hui, que l'État était prêt à réinvestir de l'argent dans EDF s'il le fallait. Ce qui rassurait les salariés. Sauf qu'il est allé plus loin, et en tant que libéral de droite, il a dit qu'il y avait eu des problèmes dans la gestion, notamment de la part de l'État, d'EDF, et qu'il y avait un compromis social trop généreux. Bon, laissant entendre que les salariés peut-être étaient trop payés, avaient trop d'avantages. C'est ça que ça veut dire. Du coup, quand il est arrivé à la centrale, il s'est fait huer par les salariés, et notamment certains, j'imagine, des syndicalistes, parce qu'ils ont estimé que ses propos, pour les citer, ses propos sont inadmissibles, et le ministre doit comprendre notre opposition et notre colère. Voilà quelques propos de salariés lorsqu'il a visité cette centrale nucléaire de Civaux. Les salariés demandent que EDF abandonne les projets anglais et se concentre plutôt sur la mise aux normes des centrales nucléaires françaises. On va pas défendre ce que disent ces salariés-là qui sont pro-nucléaires aussi. Mais bon, voilà, on a eu une petite mésaventure pour Monsieur Macron, qui, on le sait bien, aime le nucléaire, mais aime pas le social. Ça, on l'a compris. Et puis, dernière petite info, c'est une étude qui nous vient d'une structure qui est, je pense, internationale, et qui étudie l'idée de doubler la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie dans le monde. Et donc, il y a toute une étude, je ne vais pas la détailler puisqu'il ne me reste qu'une minute, ça s'appelle l'IRENA, cette organisation dite intergouvernementale, et eux, ils ont calculé tous les impacts que ça avait. Alors, ça a un coût énorme, 290 milliards au niveau international, mais ça fait économiser minimum 1200 milliards. Sur quoi ? Sur la santé. Parce que c'est pas le nucléaire qui est concerné pour la France, mais c'est toute la pollution liée au charbon, au fuel et tout ça, voire jusqu'à 4 000 milliards de dollars d'économie. Donc ils disent, vous voyez, on double la quantité de renouvelables et on économise énormément d'argent. Donc voilà, c'était pour dire, vous pouvez aller voir sur le site de l'IRENA, I-R-E-N-A. Allez, 20 secondes pour faire un petit agenda. Agenda, je dirais que ce week-end, il y a pas mal de choses autour du vélo. Donc samedi, il y a une grande vélorution, ça s'appelle une véloparade des super-héros, puisqu'il faut se déguiser en super-héros. C'est à 16h30 à Charpennes, à Villeurbanne, pour cette vélorution. Et dimanche, un jeu de piste à 13h, enfin de 13h à 16h. Départ de Pignon-sur-Rue, rue Sainte-Polycarpe. Vous pouvez venir avec vos enfants, puisque c'est ouvert à tout le monde, mais il faut accompagner les enfants. Un débat à la Griffe à 15h samedi autour de la sociologie, la commune libre de la Croix-Rousse organise une rencontre débat sur l'esplanade de la Grande Côte, toujours samedi à 13h, et il est 20h passé de 20 secondes. Ça va être le mot de la fin de ce Canu Info.
On se retrouve la semaine prochaine, on vous laisse tout de suite avec Papillon.
Bye bye.
Au troisième top 13h, LIP, c'est l'heure.